des écrivains, une émission proposée par Christophe Onodibio.
Bonjour, il est 17h et c'est le temps des écrivains, le magazine littéraire de France Culture. Aujourd'hui, la rentrée littéraire avec deux livres que nous avons beaucoup, beaucoup aimés. Deux livres signés par deux écrivains qui, s'ils sont très différents, ont pour point commun de célébrer chacun à leur façon des débuts, ce qu'on appelle les premières fois, les origines peut-être d'un double désir, désir amoureux, désir d'écrire. L'un et l'autre, évidemment, sont liés. En tout cas, on leur posera la question à nos invités qui sont là aujourd'hui avec moi. Moi, autour de cette table, Lynn Papin et Santiago Amigorena. Bonjour Lynn Papin.
Bonjour.
Vous êtes née en 1995, vous avez donc 21 ans, hein, si je calcule bien, ça va. Je crois que vous êtes la plus précoce en cette rentrée littéraire. Vous publiez votre premier texte, votre premier roman, il s'intitule « L'éveil », il est publié par Stock. On y fait la connaissance d'une jeune fille, Juliette, expatriée avec sa famille au Vietnam. Et Juliette, dans une scène d'ouverture chargée de parfums et de moiteur, dans une fête où la nature paraît s'inviter tout entière, suit jusqu'à son lit un homme plus âgé qu'elle, dont elle ignore tout, identité, âge. Un homme dont on ne saura d'abord qu'une chose, il a les yeux jaunes, c'est d'ailleurs l'homme aux yeux jaunes. Il est objet du désir dans la première partie du roman, et puis il va devenir progressivement sujet d'un désir pour une autre jeune femme, Laura. C'est donc un triangle amoureux que vous nous proposez, mais surtout une écriture pleine de fulgurances, de sensations, d'interrogations sur ce mouvement intime que vous nommez l'éveil. On va revenir évidemment sur ce titre, puisque c'est le titre de votre roman, et c'est assez programmatique puisque c'est, je le disais, votre premier roman. Comment Lynn Papin s'est imposé ce titre qui s'applique autant à ce que ressent en elle l'héroïne qu'à l'écrivain qui couche cette héroïne sur le papier et qui manifeste par cette façon de la coucher sur le papier et par ce livre au fond aussi son éveil à la littérature?
Oui, c'est un triple éveil en quelque sorte.
Au-delà triple, de... hein, vous dites-vous?
Oui, parce que pour moi chacun des personnages s'éveille, parce que je trouve qu'ils ont tous une force et ils sont tous à la découverte de quelque chose. Et après, bien sûr, c'est, comme c'est mon premier roman, c'est aussi moi qui fais une tentative de...
D'éveil. Et le titre s'est imposé aussitôt? Il a fallu cheminer pour le,
non,
pour
il
le
a, trouver? Non, ouais, il a fallu cheminer un peu.
Parce que le mot éveil est présent, justement, constelle totalement le texte. C'est vrai que pour chacun des personnages, ils sont au bord de l'éveil ou au seuil de l'éveil.
Oui, c'est cette notion notamment qui m'a intéressée, c'est que justement Juliette dit qu'elle est à l'orée de l'éveil et c'est parce qu'elle sent en fait qu'elle va s'éveiller. Elle le sent et elle le désire avant même en fait de vraiment s'éclore tout à fait.
Et il y a une portée mystique dans ce terme, puisqu'on est en Asie, hein, on est au Vietnam. Il y a un côté bouddhiste dans cet éveil qui passerait par le corps, qui passerait par les sens, donc un petit peu différent de l'enseignement du Bouddha. Mais il y a cette dimension-là. Pour vous, dans ce texte?
Pour moi, non, il n'y a pas de dimension bouddhiste. Mais après, c'est vrai que, enfin, sans forcément qu'il y ait une dimension bouddhiste, j'ai tenu à ce qu'il y ait une grande place pour les sensations du pays, du Vietnam, donc les odeurs, les klaxons, le bruit, tout ça. Et donc, il y a peut-être aussi un éveil au pays, puisque, en fait, les trois personnages sont étrangers. Et donc, ils arrivent tous les trois à Hanoï, ils découvrent tous les trois à Hanoï, et donc, ils s'éveillent aussi à ce qu'ils voient, et c'est la ville aussi qui les emporte beaucoup.
Je parlais d'éveil au sens mystique à cause de Santiago Amigorena, puisque une partie de ses premières fois se déroule à Patmos, hein, évidemment le siège de l'Apocalypse. Vous en moquez hein, d'ailleurs, de cette grotte où Jean aurait été comme ça inspiré par le souffle divin. Santiago Amigorena, vous avez lu L'éveil de Lynn Papin?
Oui. Quand j'entendais ces mots sur les personnages qui s'éveillent, je trouve qu'il y a aussi dans les mots eux-mêmes, il y a quelque chose qui arrache au sommeil. C'est-à-dire que il y a le climat pesant, tropical. Il y a une sorte d'appel à la sieste constant et des espèces de petites fulgurances des sens qui font que les personnages constamment sortent de ça. Donc je trouve que le titre lui va très bien.
Très bien.
Et le titre est pas mal aussi. Les premières fois, Santiago Mejorana. Alors vous, vous êtes né en 1962, hein, c'est ça, à Buenos Aires,
oui, soyez
en
pas
Argentine.
Grossier.
Non. Mais non, mais là, de toute façon, là, il faut capituler.
D'accord.
Là, voilà. Quand on arrive
95,
voilà, aux années 62. 90, voilà, il faut capituler. Vous êtes écrivain, vous êtes cinéaste, vous êtes l'auteur d'une œuvre abondante et principalement depuis 1998, autobiographique, vous me corrigez hein, sur cette notion, puisque c'est que vous êtes très à cheval, vous conspuez le terme d'autofiction, on va en parler avec vous hein, d'ailleurs. Une veine dont nous pourrions citer les titres suivants, une jeunesse aphone, une adolescence taciturne, le premier amour, et ça se poursuit aujourd'hui avec les premières fois, c'est chez POL. Dans ces premières fois, le narrateur n'a pas encore aimé. On dit quoi d'ailleurs? On dit narrateur, on dit le personnage Amigorena, puisque vous l'appelez roman hein, ces premières fois.
Je parle du narrateur en général, c'est-à-dire que je détache le narrateur de moi-même. Oui, évidemment, il n'y a rien de très original à avoir un narrateur qui porte le même nom que l'écrivain. Bon, je pense au petit Marcel. Mais oui, quoi, ce que je revendique par autobiographie contre autofiction, c'est surtout de m'inscrire dans une tradition qui me semble un peu plus ancienne et qui ne fait pas appel à un mouvement littéraire très contemporain.
Voilà. On aura le temps d'en reparler de cette différence, Santiago Amigorena. Vous êtes dans ses premières fois au collège, vous êtes un petit exilé hein, qui est arrivé d'Argentine, exilé géographiquement mais aussi spatialement puisqu'il est passé d'un énorme appartement à des conditions beaucoup plus modestes. C'est important aussi cette dimension-là dans votre livre. Vous portez de temps en temps, alors le narrateur Amigorena porte un poncho, boit du maté et raconte les actes et les pensées qui le traversent alors qu'il est confronté à ses nouveaux amis, à ses parents séparés, donc à l'exil, aux jeunes filles, évidemment, il est beaucoup question des jeunes filles, et à la littérature qui est vraiment la compagne absolue de ce très beau texte. Et ce qui est fort chez vous et très bon chez vous, Santiago Amigorena, c'est que vous ne nous infligez pas des considérations lestées par un esprit de sérieux qui serait insupportable, mais vous jouez constamment avec vous-même, avec ce narrateur, vous le chargez d'ironie, il est qualifié de vieux crapaud graphomane par rapport au têtard qu'il était à l'époque de ses premières fois. Pourquoi cibler seulement maintenant, Santiago, ce moment précis des premières fois avec ce texte qui, au fond, complète une œuvre déjà fleuve ?
Oui, je ne suis pas très discipliné, disons. Et je savais qu'il fallait que j'écrive ce texte-là qui raconte 4 années de collège, de lycée du narrateur. Donc j'avais laissé ce trou, c'est-à-dire que ça se situe juste avant le premier amour et le texte qui suit qui s'appelle La première défaite et donc qui ont été publiés tous les deux il y a quelques années. Je me suis donné un programme il y a très longtemps et j'essayais de le suivre et parfois de le trahir aussi. Et chaque livre, évidemment, devient un objet autonome. Donc la continuité que j'établis entre mes livres, elle me sert à moi à écrire. Après, je ne sais pas si elle sert hein, dans la lecture. Je pense qu'on peut me lire de plein de manières différentes, j'espère.
Mais vous avez laissé un trou, hein, c'est ça. On ne va pas faire là de psychanalyse ou aller dans le chez Lacan, mais voilà, c'est quoi? Il y avait une peur aussi d'affronter justement cette béance dont vous parlez souvent, puisqu'il est aussi question de sexualité et de la première fois.
C'est pire que ça, quoi. Pour faire un peu de psychanalyse de cuisine, c'est-à-dire que je m'efforce aussi de vivre ce que je dois écrire. Donc, je fais les deux. J'écris ce que j'ai vécu et je vis ce que je pense qu'il me faut écrire. Donc, j'ai écrit Le premier amour à un moment où ma vie me portait à écrire sur ça, La première défaite à un moment où j'avais besoin peut-être de revenir sur un moment douloureux, amoureux et douloureux. Et les premières fois, c'est venu parce que, voilà, malgré le fait que je sois né en 1962, voilà, je traverse un moment d'adolescence extrêmement joyeux et qui m'a fait écrire sur l'adolescence où j'ai eu besoin de me souvenir de cette force-là pour la retrouver.
Et on s'intéressera beaucoup à cette méthode aussi pour faire ressurgir justement l'adolescence, même si vous venez de nous dire que voilà, vous êtes finalement redevenu une sorte de retour de jeunesse. C'est magnifique. Lynn Papin, vous avez lu les premières fois de Santiago Amigorena?
Oui, je ne l'ai pas encore fini.
Il est 600 pages, hein, voilà, c'est un vraiment fleuve. Mais Qu'est-ce que vous en avez pensé?
En fait, j'ai été très surprise parce que je trouve que c'est une écriture que je n'ai pas l'habitude de lire en fait, dans les romans contemporains. C'est-à-dire que je trouve que c'est une écriture assez classique finalement. Et ça m'a fait vraiment plaisir parce que moi, j'ai peu l'habitude de lire en fait, des contemporains. Je lis plutôt des classiques. Et tout à l'heure, vous disiez que vous ne vouliez pas le rattacher justement à l'autofiction et davantage à l'autobiographie et à un courant plus ancien. Et moi, ça m'a un peu fait penser par moments aux Confessions de Rousseau, notamment quand vous faites appel au lecteur, etc. Et j'ai vu donc pas mal de références et ça m'a vraiment plu.
Confession, ça vous va, Santiago? Oui, vous utilisez le mot, hein, d'ailleurs,
oui,
de confession.
Oui, confession, quoi, Rousseau ou Saint-Augustin.
Exactement. C'est ça la filiation. Vous essayez.
Très clairement. Quoi, très clairement. C'est très vieux, quoi, l'autobiographie. Hein. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'on continue à séparer autobiographie et fiction, alors que c'est très clair qu'au XXe siècle, les deux grandes œuvres autobiographiques, quoi, à mon avis, c'est donc Proust et Joyce, mais on ne saurait pas trop quoi en faire. Quoi.
Cette distinction fiction-autobiographie, pour vous, elle n'a pas lieu d'être, au fond?
Non, moi, je ne la comprends pas du tout aujourd'hui. Quoi. C'est-à-dire que je pense que peut-être il avait un sens, un moment, oui, quand Saint-Augustin pense qu'il faut qu'il parle à Dieu pour se faire pardonner. Non, aujourd'hui, je trouve qu'elle est assez absurde. Et quoi, moi-même, écrivant, en général, je ne fais pas de différence entre le passé... disons, réel, qui pourrait être attesté par une autre mémoire que la mienne, et des choses que j'invente absolument.
Vos deux romans, je dis ça parce qu'il s'agit de romans, hein, ils portent l'estampille roman, les premières fois, Santiago Amigorena, et c'est le cas pour L'Éveil également, Lynn Papin. On pourrait dire qu'ils sont aux antipodes l'un de l'autre, d'abord parce qu'il y a une jeune femme et puis un vieux crapaud graphomane, hein, c'est vous qui le dites plusieurs fois. qui a été têtard aussi, hein, ouais. Dans le ton, dans la forme, dans le projet. Et pourtant, ces deux livres nous font tous les deux pénétrer dans le chaos d'une vie intérieure qui examine avec passion les sensations qui traversent les narrateurs. Et surtout, ils ont pour point commun de raconter le désir à travers l'expérience qu'on fait de ce désir. Le désir, et plus précisément les premiers désirs, ceux qui nous façonnent, ceux qui nous perdent aussi, parfois. Il y a une citation que j'aimerais bien vous soumettre, je trouve qu'elle résonne très très bien avec vos textes, c'est Deleuze, dans un dialogue avec Claire Pernet. Il dit, Deleuze, « Savez-vous comme c'est simple un désir? Dormir est un désir, se promener est un désir. Écouter de la musique ou bien faire de la musique ou bien écrire sont des désirs. Un printemps, un hiver sont des désirs. La vieillesse aussi est un désir, même la mort. Le désir n'est jamais à interpréter, c'est lui qui expérimente. » Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Ou est-ce qu'au contraire, l'écriture n'est pas justement là pour interpréter le désir? Est-ce que ce n'est pas ce qui la fonde, l'écriture, comme désir de fixer par les mots un désir? Santiago Amigorena.
Oui, c'est-à-dire que ce qui est beau dans la manière dont Deleuze aborde le désir, donc surtout à travers le concept de machine désirante, c'est que ça ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que le désir crée l'écriture et l'écriture crée le désir. Et que donc, une des choses qui, pour moi, définit la littérature, justement, c'est que ce n'est pas une forme arrêtée. C'est-à-dire qu'on ne réussit pas complètement à trouver des mots justes pour dire quelque chose qui ne serait plus remis en question, qui serait accepté par tout le monde de la même manière. Ce qu'on propose, c'est une nouvelle forme de désir qui est la lecture. Donc, et qui, voilà, chacun recrée un texte en le lisant.
Ou on subit le désir de l'autre aussi, de l'auteur. Enfin, on est obligé de s'y couler ou de le refuser.
Je pense que le propre de l'écriture littéraire, c'est de proposer des lectures différentes, pas de fixer une seule lecture. C'est pour ça que, voilà, qu'on ne cesse pas de parler de nos textes, de lire et de relire. Quand on lit deux fois un livre, voilà, on sait très bien que ce n'est pas le même livre qu'on lit les deux fois.
Vous en parlez, hein, d'ailleurs, Santiago Amigorena, aussi du désir. Évidemment, il y a le désir physique, désir d'art, désir esthétique, mais aussi désir d'écriture. Vous parlez d'un de vos amis, qui s'appelait Christophe. Je devais découvrir aussi, grâce à Christophe, qui était à l'origine d'un des désirs les plus visuels et les plus invisibles, puisqu'il n'en reste rien dans ce que je donne à lire, de mon écriture. Que chaque feuille que j'écris, couverte davantage de lignes, davantage de mots, soit plus sombre que la précédente, que chaque page manuscrite de ce dernier livre soit plus sombre jusqu'à la dernière, qui, toute écrite sera entièrement noire. Là, vous inversez totalement le paradigme.
Oui, malheureusement, ce n'est pas de la fiction, ça c'est vrai. J'écris chaque fois avec une écriture plus petite. Et voilà, ce livre-là qui fait 600 pages, c'est 20 pages manuscrites.
Donc, oui. On le voit hein, avec votre écriture, voilà, absolument minuscule voilà, ouais. sur l'envoi. Vous avez tous les deux la caractéristique de vous être colté, si je puis dire, un topos littéraire particulièrement puissant, écrasant, peut-être celui de la première rencontre, qui fonde d'ailleurs un autre topos qui est l'échec amoureux. Hein. Je ne vais pas vous citer le Flaubert, ce fut comme une apparition dans l'éducation sentimentale, ou Aragon et Bérénice, la première fois qu'Aurélien vit Bérénice, il la trouva franchement laide. Marguerite Duras aussi, hein, avec cette rencontre avec le Chinois. Lynn Papin, c'est votre premier texte. Est-ce qu'on prend littérairement des précautions particulières quand on s'embarque dans ce lieu commun, ce topos de la première rencontre qui a été tant de fois raconté, détourné, pastiché? Est-ce que vous avez réfléchi à éviter certains écueils ou pas du tout?
Non, en fait, j'ai pas beaucoup réfléchi ni au thème que j'abordais, ni à la manière dont il fallait éviter des écueils ou non. D'autant plus que comme c'est mon premier roman, j'ai pas pensé à la manière dont il serait forcément reçu, puisque je pensais pas forcément qu'il serait publié.
Ah non, mais même avant, pour vous, en tant que première lectrice de ce que, en disant voilà, j'ai envie de raconter ça, ça a été tant de fois raconté, leurs yeux se rencontrèrent, là il y a les yeux jaunes, cette invention des yeux jaunes est très,
non,
très belle.
Non, je me suis vraiment laissée porter par l'écriture.
Parce qu'il y a quand même un mécanisme, hein, un enchâssement. On commence par un dialogue et ce dialogue ouvre sur le récit de cette rencontre avec une accélération du récit. Donc ça, quand même, vous l'avez pensé ou c'est venu comme à Patmos pour Saint-Jean, presque de manière infuse?
Je pense que les deux voies, enfin les deux sortes de plateformes, en fait, entre la plateforme plus neutre, plus réaliste, où Juliette parle à Raphaël, et celle où elle s'emporte, qui est plus romantique, je pense que ça me permettait de justement créer une distance entre les deux et de pas rentrer d'emblée dans un récit complètement emporté et qui est... Enfin, il y a plusieurs degrés, en fait, de...
Que vous appelez des plateformes.
Oui.
Ouais, c'est curieux, ce terme. Il est assez beau, d'ailleurs. Pourquoi plateforme, en fait?
Parce que dans ma tête, c'est des... À la fois dans le temps et dans l'espace, ils sont... Enfin, ce qui est raconté et la manière dont c'est raconté sont séparés. Enfin, et même dans le livre, comme c'est de chapitre en chapitre, dans ma tête, c'est des plateformes.
Des plateformes, très bien. On va commencer avec vous, Santiago Migorena. On va entrer dans ces premières fois que nous allons revivre grâce à vous. D'abord, on écoute votre choix musical. Vous avez choisi Suzanne de Leonard Cohen.
Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by, you can spend the night beside her, and you know that she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China, and just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength, and she lets the river answer that you've always been her lover. To travel with her, and you want to travel blind, and you know that she will trust you, for you've touched her perfect body with your mind.
Suzanne, Leonard Cohen, évidemment, c'est le choix de Santiago Amigorena. Il publie Les Premières Fois chez POL. Il est notre invité avec Lynn Papin qui publie L'Éveil chez Stock. Santiago Amigorena, pourquoi ce choix musical? Il y avait Patti Smith aussi, hein, vous hésitiez.
Bon, en fait, ça se réfère à un des chapitres du livre qui raconte voilà, la première vraie histoire d'amour. Avec une fille qui s'appelle Delphine au lycée, et il y a une sorte de jeu du narrateur qui répond à la chanson très provocante que Delphine lui fait écouter constamment, qui est Because the Night de Patti Smith, donc une chanson pleine de luxure,
de sève,
voilà, par cette chanson de Leonard Cohen qui, au contraire, je pense, est pleine d'une forme de, je dirais, de timidité, même si le chanteur rentre dans cette relation et se place peut-être comme un amant un peu extérieur. Mais...
C'est drôle ce que vous dites, parce qu'on a constamment l'impression que ce personnage veut différer le moment. Claude Arnault, qui a écrit un très beau papier sur vous, parle d'Anti-Scheherazade, qui en fait ne veut pas éviter la mort, mais veut éviter la petite mort en racontant, en écrivant, pour différer ce moment-là. Et c'est un peu la même chose que vous venez de nous dire entre ces deux musiques, où elle lui envoie Patti Smith et il répond par le calme de Leonard Cohen.
Oui, c'est que le narrateur n'est pas très intrépide, disons, dans son adolescence. Il y a aussi cette notion de peur en face d'une fille, quoi, qui est assez propre aux garçons, aux adolescents. Mais disons qu'il profite de ce qu'il sent, de l'amour, et qu'il y a quelque chose dans l'amour réel qui fait finir ce plaisir qu'il peut y avoir dans l'amour malheureux, dans l'amour courtois, selon quoi. On pourrait le définir de plein de façons.
Le fin amour, voilà. Comme on disait, vous en parlez d'ailleurs. Alors, ces premières fois, c'est un texte très ample, on lisait près de 600 pages, mais qui se lisait absolument facilement, et d'ailleurs, pas forcément dans l'ordre, je trouve. Je ne sais pas si vous souscrivez à cette possibilité de lecture, on a l'impression de retrouver un compagnon familier.
Je sais que je ne peux imaginer d'être lu que lentement, donc que ce soit dans l'ordre ou le désordre, peu m'importe. Mais je n'aime pas du tout l'idée qu'on lise un de mes livres en 3 jours. Ce que je ne fais pas, moi, avec les livres en général, je lis toujours les livres, plusieurs livres à la fois, mais en tout cas pendant une longue période.
600 pages dans le projet est de nous décrire très minutieusement ce que furent la rencontre de l'amitié, de la passion, des élans du cœur et du corps d'un adolescent dans les années 70. On est dans un lycée parisien, un lycée de gens pas riches justement, puisqu'il y a une sorte de déclassement d'ailleurs qui est raconté dans le livre, depuis une école prestigieuse jusqu'à ce lycée Rodin, qui est mentionné dans le 13e arrondissement. Il se sent personnage comme un déclassé lui aussi parce qu'il vient d'Argentine. Il en tire aussi une certaine fierté de ce déclassement. Il est question dans ce livre, donc je parlais du lycée Rodin, évidemment de Paris, mais il est question aussi beaucoup de l'Italie, de la Grèce. On a ouvert cette émission en évoquant Patmos, des Pays-Bas, aussi la Tchécoslovaquie où le père emmène son garçon. Mais par-delà ces territoires physiques, il y a beaucoup plus puissant, je trouve. C'est un territoire mental, un territoire parallèle et centrale à la fois, une sorte de plateforme, pour reprendre l'expression de Lynn Papin. C'est la littérature dont on sent à chaque page la fièvre, la nécessité. Les premières fois, en effet, c'est d'abord les premières fois qu'on écrit, les premières fois qu'on consigne les plus forts moments de ce qui nous arrive. Tout ce qui a été écrit ici a été vécu, nous avez-vous prévenu Santiago Migorena, et pourtant, c'est comme si tout ce qui avait été vécu ne l'avait été au fond que pour être écrit. On a cette impression.
Oui, c'est-à-dire que ce que je cherche et ce qui me fait plaisir les fois où je le trouve, c'est de trouver des mots justes pour des choses qui racontent la vie du narrateur. Et parfois, les mots justes ne correspondent pas du tout à la réalité. Il y a un exemple que je donnais il n'y a pas longtemps à mon éditeur. Je disais qu'une de mes phrases favorites du livre, et ça va sembler absurde à vous deux et à n'importe quel auditeur, pardon, c'est un moment où je dis que mon frère me prend la main pour m'amener voir des amis, donc c'est juste après la première fois où le narrateur fait l'amour. Et ce geste d'un frère qui prend par la main, donc le frère a 18 ans, le narrateur a 17 ans, on peut imaginer tout de suite que c'est absurde. Et je sais, évidemment, parce que je me souviens de ce moment qu'il ne m'a pas pris par la main. Mais pourtant, ces mots, qui disent quelque chose d'absolument faux, sont les plus justes pour moi du livre. Donc je pense que c'est là où naît sans doute, où peut-être on retrouve une généalogie assez longue de lecture et de désir de littérature, c'est que c'est jamais la preuve de la réalité d'un événement qui fait que l'événement ait sa place dans le livre.
C'est-à-dire qu'il faut, au besoin, réécrire justement sa vie pour la revivre. C'est presque nietzschéen.
Oui,
plus
nietzschéen,
que rousseauiste.
Proustien, rousseauiste, oui, Montaigne...
Lynn Papin, mais je vous en prie.
Que, le langage et la sonorité des mots, qui viennent aussi au-delà des faits, c'est-à-dire que enfin, parfois un mot peut s'imposer et c'est pas très important en fait que ce soit passé ou non. Le travail qui compte, c'est aussi que la phrase soit belle et sonne bien, que le texte soit beau, au-delà de sa véracité ou non.
Mmh, et de sa vérité. Mais le mot de vérité, en revanche, vous le révérez, hein, ce mot-là. Pas la véracité, mais le mot de vérité.
Oui, je oppose un peu réalité et vérité, parfois, ce qui me gêne un peu, donc je ne veux pas en parler longtemps. Mais c'est vrai, par exemple, quoi, je pense à une phrase du livre de Lynn, qui pour moi est vraiment le propre, ce qui suscite de l'écriture, c'est... Donc elle parle du mot conséquence, elle dit qu'il est rectangulaire. C'est à cause de ça qu'on écrit, c'est parce que tout d'un coup un mot, on se dit qu'il a une couleur ou un goût, et donc on cherche à voir où est-ce qu'on doit placer ce mot pour qu'il corresponde à cet ensemble de sensations qu'on a de la réalité et du souvenir ou de l'imaginaire.
J'aimerais qu'on vous entende lire un extrait, Santiago Amigorena, de ces premières fois. J'ai choisi un passage qui est au début du livre où vous expliquez en fait votre rapport à l'adolescence et au corps qu'on a et à l'énergie qu'on a quand on est adolescent.
Et si justement adulte, on se dit si injustement que l'adolescence n'était pas un âge heureux, si on tente désespérément de ne se souvenir que des désagréments provoqués par nos propres passions et nos propres incertitudes, si le souvenir du corps lui-même, de ce corps protéiforme, tour à tour expansif et renfermé, ce corps joyeux, explosif et dépressif aussi, nous épuise, c'est tout bêtement parce qu'adultes, nous n'avons plus la force que nous avions. Nous n'avons, même en souvenir, plus la force de nous rappeler les forces démesurées et contradictoires qui nous animaient. Ces forces qui ne nous interdisaient pas de passer, avec une vitesse extrême, du désespoir le plus profond, dû à ce petit regard que telle fille nous avait nié en cours d'histoire, à la joie la plus intense, due au pain au chocolat ou à la partie de foot de la récré de 10h30. La caractéristique de l'adolescence, âge nullement ingrat, très fécond, et qu'on n'y consulte pas l'intelligence, et que les moindres attributs des êtres semblent faire partie indivisible de leur personnalité. Tout entouré de monstres et de dieux, on ne connaît guère le calme. Il n'y a presque pas un des gestes qu'on a fait alors qu'on ne voudrait plus tard pouvoir abolir. Mais ce qu'on devrait regretter au contraire, c'est de ne plus posséder la spontanéité qui nous les faisait accomplir. Et si l'écriture n'est que le meilleur moyen de ne cesser de se souvenir que nous avons été heureux et que nous ne le sommes plus, ou que nous avons été malheureux et que nous le sommes encore, ou bien que ce ne soit plutôt qu'un moyen constant et vain de vouloir être ailleurs que dans ce passé qui nous échappe, tout en nous laissant espérer que nous pourrions être réellement celui que nous serions, c'est-à-dire un mélange insoluble de passé et de présent. Elle est aussi, pour les crapauds graphomanes de mon espèce, la seule façon de renouer les fils qui nous tressent intimement chacun d'entre nous, et qui, depuis plusieurs millénaires, nous tressent tout aussi intimement les uns aux autres. C'est pour ça que je peux affirmer que tant que je serai là chaque matin à l'aube devant ma feuille, ma plume à la main, que tant que chaque matin je serai là à vouloir ressusciter ensemble les plus grandes peines et les plus grandes joies, tout ira bien. Faites-moi confiance, humain, faites confiance à ma folie.
Merci. Bon,
ce n'est pas moi qui choisis l'extrait, évidemment.
Mais vous avez écrit, ce sont vos mots, Santiago Amigorena. C'était un extrait des premières fois avec cette adresse au lecteur dont vous nous parliez, Lynn Papin, et qui vous faisait penser à Rousseau. Vous êtes d'accord avec cette théorie de l'écriture du vieux crapaud graphomane? Je ne fais que reprendre à nouveau cette expression. Vous qui êtes si jeune encore et qui vous lancez dans cette carrière, quand vous voyez, voilà, que il est question de folie, il est question de venir à sa table de travail chaque jour, de tresser, détresser les fils qui nous composent. Cette conception de l'écriture, de la littérature.
Oui, mais après, moi en tout cas pour l'instant, je la pratique pas de la même manière, c'est-à-dire que j'écris pas tous les jours par exemple, enfin j'écris pour l'instant plus par à-coup, comme par pulsion, et ensuite j'essaye de tout y retisser, mais pour moi c'est pas un travail linéaire, enfin, pas pour l'instant en tout cas.
Très bien. Santiago Amigorena, quand je préparais cette émission, une phrase qui s'est invitée, une phrase de Marguerite Duras dans La vie matérielle, c'est un auteur que vous aimez, Lynn Papin.
Oui.
On sent aussi un peu l'influence de Duras, d'ailleurs dans L'éveil. Elle dit, Marguerite Duras, « Je n'ai pas d'histoire, de la même façon que je n'ai pas de vie. Mon histoire, elle est pulvérisée chaque jour, à chaque seconde de chaque jour, par le présent de la vie, et je n'ai aucune possibilité d'apercevoir clairement ce qu'on appelle ainsi sa vie. Je me demande sur quoi se basent les gens pour raconter leur vie. Pour vous, Santiago Amigorena, ce sont les premières fois. Est-ce que vous pourriez nous expliquer plus précisément cette méthode ? Sur quoi vous vous basez, vous, pour raconter cette vie, en fait ?
Je dirais que je me base sur trois plateformes différentes, comme dirait Lynn. Donc l'une, c'est ma mémoire, très clairement, quoi, ce que tout le monde utilise pour écrire. L'autre, c'est une forme de liberté que j'essaie de donner par l'imaginaire à la mémoire, c'est-à-dire que de ne pas me limiter à cette première plateforme. Et l'autre, c'est les écrits que j'ai accumulés depuis que j'ai 6 ans, parce que j'ai gardé tous mes papiers, tous les textes écrits aux différents âges. Et donc, voilà, je retrouve très souvent des textes anciens qui me font écrire.
Ils sont là, hein, d'ailleurs, tous ces textes. Parce que c'est vrai que on parlait de tissage, hein, d'ailleurs, qui est l'étymologie du mot texte, hein, d'ailleurs. Il est constellé de petits poèmes en italique ou de pages très, d'ailleurs, non pas calligraphiées, mais calligrammées. Ça, ce sont des textes qui proviennent de cette époque que vous entremêlez.
Il y a beaucoup de textes qui proviennent de cette époque, donc j'ai écrit quand j'étais au lycée. Et il y a aussi des textes que j'écris aujourd'hui comme si je les écrivais à l'époque du lycée, vu que je n'accorde pas non plus de valeur à un texte écrit à l'époque qu'un texte que j'écris aujourd'hui en disant il a été écrit quand j'avais 14 ans ou 15 ans.
Pourquoi plus de valeur ? Littérairement, par exemple, il n'y a pas quand même une indexation sur une certaine maîtrise de l'art, si je puis dire ?
Bah, encore une fois, je pense que ce qui est important, c'est que le texte que le narrateur donne à lire comme étant un texte de l'époque disent quelque chose de l'époque, de l'âge ou de ce qui se passe voilà, dans sa vie à ce moment-là. Donc qu'il soit écrit aujourd'hui ou à un autre moment, c'est exactement pareil. Il y a quelques textes dans ce livre en particulier qui m'ont un peu étonné, c'est que j'ai retrouvé des petits dialogues, par exemple, qu'on s'envoyait en cours, donc où il y a une phrase de moi, une phrase d'une...
Avant les SMS.
Voilà, donc les SMS de l'époque, les SMS des années 70. Et cette mémoire écrite-là, elle était assez particulière parce qu'elle ressuscitait quelque chose qui est d'un autre ordre que les textes que j'ai écrits dans des cahiers, bon, voilà, souvent des poèmes...
Mais plutôt que le crapaud qui revient, hein, cette image du crapaud par rapport au têtard que vous étiez donc dans les années 70, il faudrait peut-être plutôt prendre une autre métaphore, le côté, je ne sais pas quel animal ou quel oiseau garde comme ça les traces ou les débris de son existence passée, parce que vous nous dites que depuis l'âge de 6 ans, en fait, vous gardez toutes ces traces écrites. Ouais. Et c'est ça qui fonde aussi l'écrivain Santiago Amigorena, celui qui a gardé trace de ça pour...
On va revenir à la psychanalyse de cuisine, mais effectivement, l'exil, ce type de coupure provoque sans doute un rattachement d'une part à la mémoire et d'une autre part à des objets, à des choses matérielles qui certifient qu'on a été. Donc, quand j'en parle un peu au début des premières fois, en disant la souffrance que le narrateur éprouve par rapport à des amis de lycée qui peuvent certifier qu'il continue à manger tous les jours la même confiture ou les mêmes biscuits, aller chez cette grand-mère qui fait le même gâteau que peut-être ils n'aiment plus mais qu'ils ont aimé quand ils étaient enfants, et donc ça certifie une sorte de réalité du passé. Dans l'exil, on perd tout ça très brusquement et donc on se rattache comme on peut à garder d'autres traces matérielles qui ont toujours le même rôle, de certifier que nous avons été.
Il y a une phrase pour parler de l'exil, hein, exil spatial, puisque le personnage Amigorena est arrivé d'Argentine, hein, je le disais, il découvre ses nouveaux compatriotes, comme il les appelle. Il découvre aussi les gesticulations grotesques et suantes de Claude François à la télé, qui passe comme ça, parce que c'est à la fois ce livre, parfois de grands élans réflexifs sur ce que c'est que l'écriture, ce que c'est que la vie, ce que c'est que l'enfance, ce que c'est que l'amitié, ce que c'est que la sexualité aussi, mais très très enraciné dans l'époque. Hein. Vous parliez de réalité et non pas de véracité, mais en tout cas tous les marqueurs sont là, les années 70, les voitures, la révolution sexuelle qui est là, le professeur d'histoire géo qui offre d'ailleurs sa compagne au jeune têtard Amigorena. Mais il s'y manifeste surtout, je trouve, un exil temporel. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, qui est très simple, voilà, presque aussi simple que celle que vous avez citée tout à l'heure. l'enfance est notre seule patrie. Comme si finalement, nous tous, on était d'abord, avant tout et ex nihilo, exilés de notre enfance. Qu'est-ce que, au fond, cette patrie enfantine a à voir pour vous dans votre travail d'écrivain ? Est-ce qu'au fond, ça se résume à ça ?
C'est une question complexe, mais oui, effectivement, je pense qu'on écrit toujours enfant. C'est-à-dire que ce qui est écrit en nous, c'est toujours l'enfance. Donc l'étymologie d'enfance qui est le silence, quoi, qui est le sans parole.
L'infance, voilà.
Oui, je pense que c'est ça qui provoque l'écriture. Après, dans ce livre-là, donc ce qui a déplacé un peu le curseur, disons, c'est que l'adolescence, pour moi, est une force assez différente qui provoque une écriture différente. Et la particularité de l'adolescence du narrateur, c'est qu'elle s'est déroulée dans les années 70, qui pour moi sont l'époque la plus récente qui avait encore cette force explosive de l'adolescence, qui a beaucoup à voir avec l'utopie, donc avec des choses qui sont perdues en politique.
L'enfance aurait disparu maintenant, vous le dites, hein, un passage, on a aboli l'enfance.
Je dis à un moment que l'enfance, je copie un peu, je plagie un peu Blanchot, je dis que l'enfance, on a tué la jeunesse et que la jeunesse est évidemment immortelle. Je pense qu'on passe notre temps à tuer l'enfant qui est en nous, que la société passe son temps à tuer l'adolescence, la force de l'adolescence qu'on avait. Et en même temps, c'est absolument immortel et ça ressurgit tout le temps. Donc ça ressurgit en nous à travers l'écriture, ça ressurgit aussi dans l'époque.
On pense, quand on vous lit Santiago Amigorena, évidemment à Proust, auquel vous semblez vouloir faire un enfant dans le dos. ça vous va ?
Ça vous va, absolument.
Cette expression. Il parlait, Proust, du besoin de solidification, en fait. Il y a une phrase de Proust, justement, que j'aime beaucoup, qui pourrait se rattacher à votre travail. Dans Albertine disparue, il écrit « Proust, j'avais cru que je n'aimais plus Albertine, j'avais cru ne rien laisser de côté. En exact analyste, j'avais cru bien connaître le fond de mon cœur. Mais notre intelligence, si grande soit-elle, ne peut apercevoir les éléments qui le composent et qui restent insoupçonnés tant que, de l'état volatile où ils subsistent la plupart du temps, un phénomène capable de les isoler ne leur a pas fait subir un commencement de solidification. C'est ça, les premières fois, c'est offrir à ces moments, finalement, la solidification pour ne plus s'ignorer. Lui, il faisait un constat d'échec total.
Oui, c'est toujours la même chose. Est-ce que la vie existe si on ne l'a pas revécue, si on ne l'a pas écrite ? Il y a d'autres moments où Proust parle de clichés que l'intelligence doit développer. Et tant que, un souvenir en soi ne sert pas à vivre. C'est-à-dire que ce qui nous fait vivre profondément, c'est l'oubli. C'est-à-dire si on n'oubliait pas, on ne pourrait rien faire.
Le Lété dont vous parlez, le fleuve Line Papin, vous le rebaptisez.
Donc, à côté de l'oubli, il y a aussi la possibilité de faire du souvenir quelque chose qui est vivant. Et donc, ça, c'est l'écriture.
Et donc, vous ne faites pas ce constat d'échec qu'il semblait faire, Proust ?
Je pense qu'il fait un constat d'échec, mais en même temps, il dit qu'il a dû vivre le temps perdu pour faire le temps retrouvé. Donc, que la vie aboutit à un livre. Donc je ne sais pas s'il y a un vrai échec possible à écrire. C'est-à-dire qu'au moment où on écrit quelque chose, et on me le propose à lire, il y a une part d'optimisme absolu. Ça n'existe pas. Le pessimisme le plus noir dans l'écriture n'existe pas.
Il y en a eu, pourtant, de grands pessimistes qui pensaient que tout ça était à jeter aux orties.
Mais ils ont laissé une trace qu'on utilise pour continuer à vivre.
Est-ce qu'il y a cette volonté, Line Papin, chez vous, on va parler de l'éveil, de garder une trace ? On n'est pas, en tout cas, ce n'est pas avéré, ce n'est pas écrit, ce n'est pas signifié dans l'autobiographie du tout. Est-ce qu'il y a la volonté quand même de garder une trace de certaines sensations, de certains paysages, qu'ils soient physiques ou mentaux, dans l'éveil ?
Je pense que, comme ce n'est pas autobiographique et que ce n'est pas un retour sur le passé, c'est pas tellement une volonté de garder des sensations, c'est peut-être davantage une volonté de les retrouver, enfin de les faire réexister en fait par l'écriture.
C'est parce qu'il y a pas de traces qu'on essaie justement par l'écriture de les...
Oui, je pense que en tout cas dans ce roman, c'est moins un retour sur le passé et une façon de redire le passé que de le laisser un peu venir et me submerger et ressurgir par l'écriture, en fait, vraiment.
Et s'éveiller à nouveau en vous. On parle de l'éveil avec vous, Line Papin. On écoute votre choix musical. Vous avez choisi Purple Rain de Prince, titre présent dans l'éveil. «
Never meant to cause you any pain. I'm the one who wants that I see you laughing.
Purple Rain, mais on a envie de chanter, c'est Prince, c'est le choix de Lynn Papin qui publie L'Éveil. On disait voilà, qu'on essayait de faire ressurgir le passé avec cette matière textuelle, les mots, on le fait ressurgir ici, ce Prince qui nous a quittés récemment. Le titre est présent hein, dans L'Éveil, quel est le lien finalement entre ce Vietnam, évidemment la pluie, la mousson, on imagine très bien.
Aucun en fait. C'est juste la chanson passe à une scène où Laura et le personnage masculin sont dans un bar. Et en fait, c'est juste une chanson que j'écoutais à peu près au moment où j'écrivais.
Mais pas à l'époque des faits, si je puis dire. C'est pendant l'écriture. Parce que c'est ancien. Vous êtes trop jeune pour avoir. voilà, c'est déjà se pencher vers le passé que de convoquer Prince quand on écrit.
Ben je sais pas, je l'écoute en tout cas. Mais...
Alors, L'Éveil, c'est votre premier roman, Lynn Papin. Ça raconte le moment de la vie d'une jeune fille et de trois autres personnages. Juliette, expatriée avec sa famille au Vietnam, qui mène une vie aisée, oisive pourrait-on dire, mais est-ce qu'on n'est pas forcément oisif à cet âge-là, ou est-ce que c'est pas au contraire le moment où on est le plus actif, qui va suivre un soir dans une fête un homme plus âgé qu'elle, dont elle ignore l'âge, même s'il fait beaucoup plus vieux, et le nom. La seule notation, c'est l'homme aux yeux jaunes. C'est un Européen, hein, malgré cette dénomination. Et c'est toute la première partie du roman où on suit, alors c'est alterné, vous parliez de plateforme, cet amour de Juliette, où Juliette raconte ce désir, raconte cet amour, lui en vis-à-vis aussi, prend la parole, décrivant cette jeune fille qui lui tombe dessus littéralement. Et on va vivre une portion de cette vie d'Hanoï, des quartiers plus bourgeois, des quartiers d'ambassade, jusqu'au parc aquatique d'ailleurs du Vietnam. On suit un autre personnage qui s'appelle Raphaël. Une autre fille va aussi apparaître, Laura, qui se trouve être l'autre amour de cet homme aux yeux jaunes. Ça, c'est pour la toile de fond. Ce qui est très frappant dans votre écriture, Lynn Papin, parce que c'est vraiment porté par une écriture, c'est qu'elle semble presque toute chaude encore de la fulgurance qui l'a saisie. Et en même temps, je dis toute chaude, un peu comme des cendres. C'est-à-dire que c'est à la fois chaud, la fulgurance est passée, et puis on sent que ça a reposé, qu'il y a une certaine distance, qui se retrouve totalement dans l'écriture, comme si d'un côté il y avait le désir, et puis la mort de ce désir déjà, mais qui tout pouvait se réveiller très vite. On peut penser évidemment à Duras, hein, en vous lisant, ça c'est la faute à l'Asie, à l'amant plus âgé, vous n'y couperez pas, à la fausse innocence aussi. Et moi, c'est une phrase de Lacan que j'ai pensé en vous lisant. L'amour consiste à donner quelque chose que l'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas. Et d'ailleurs, vous le citez, Lacan, Santiago Amigorena, il n'y a pas de rapport sexuel, hein, c'est très très connu. On est donc frappé, Lynn Papin, c'est là-dessus que je voudrais vous interroger, sur l'écart qu'il y a entre les personnages et ce qu'ils vivent, entre leur désir finalement et leur nature. Est-ce que c'est pour ça que vous avez choisi de les faire parler isolément, en les emmurant presque chacun dans leur chapitre qui contiennent entièrement leur vision à eux, ces différentes plateformes dont vous nous parliez?
Oui, parce que finalement, c'est vrai qu'on a peut-être l'impression qu'ils vivent tout seuls leurs histoires, et même, ce qui m'a intéressé justement, c'est que c'est censé être... une histoire d'amour, une rencontre, une relation, donc quelque chose de partagé. Et finalement, à la fois dans leur espace physique, c'est-à-dire Juliette à l'ambassade et lui dans sa petite chambre, et à la fois dans l'espace physique aussi du roman, c'est-à-dire chacun dans son chapitre, ils s'éveillent et ils subissent chacun ses émotions, ils sont submergés par ses émotions. Mais envers eux-mêmes, en fait.
Oui, sans les partager, au fond. Une sorte d'éveil individuel, oui, grâce à l'autre, mais de façon séparée.
Oui.
On va vous écouter, Lynn Papin, lire un extrait de l'éveil. On est justement dans ce moment, ce récit de la rencontre, et elle suit cet homme aux yeux jaunes.
Derrière nous, des bourrasques d'air électrique soulèvent l'état d'ordure. Il ouvre et nous montons un escalier en béton dont la cage est un étau de faïence, à peine éclairé par les bouts de lumière nuitée qui passent à travers des interstices au mur. À l'étage, toujours sans mot dire, il sort une deuxième clé. Dans la pénombre et le silence qui nous entoure, j'en perçois le scintillement et le cliquetis. C'est elle qui déverrouille la porte de l'appartement. Une seule pièce où l'on ne trouve qu'un seul lit d'osier, sans matelas, un petit lavabo, une cuvette au sol et, à droite, une gazinière. J'ai un frisson en voyant cette chambre où mène soudain le trajet aveuglément parcouru jusqu'ici. L'aventure où je me suis lancée, insouciante, lui que j'ai suivi sans savoir, et voilà une pièce, nous débouchons quelque part. Et puis il y a un lit. Jamais je ne me suis allongée sur un lit à côté d'un homme. Soudain c'est mon corps que je sens, et je l'imagine posé là, j'imagine les frissons de la chair et la moiteur des peaux, je me demande. Il voit que je me suis arrêtée, se retourne vers moi, me regarde. C'est un regard de sable, long et neutre. Il n'interroge pas, n'incite pas, rien, un regard opaque qui pourtant brûle et s'ancre en moi. Je souris. Viens, court roulement des grains de sa voix grave et inflexion dorée. Il referme la porte derrière nous et me fait signe d'aller au lit.
Voilà, aller au lit, avec cette expression presque triviale, presque enfantine, on va au lit quand on va se coucher, on va pas au lit quand on va coucher. C'est étonnant cette expression.
Oui, c'est parce que Juliette, à ce moment-là, justement, il ne se passe rien en fait cette première nuit. Donc elle va vraiment au lit et elle s'endort, et assez innocemment, puisque c'est le trait principal du personnage, qui est naïf, mais sans l'être tout à fait non plus. Puisque... Non.
Elle parle d'elle comme une vierge lascive,
oui.
Jeune vierge lascive.
Oui, en fait, elle a à la fois une grande naïveté et à la fois un regard sur elle-même. En fait, c'est comme si son corps s'éveiller et que dans ses pensées, elle avait un décalage déjà et qu'elle le voyait déjà à distance, en fait.
Il y a de très belles trouvailles, hein, l'homme au regard de sable, hein, je disais, aux yeux jaunes. Il est décrit comme l'homme désert aussi, l'homme sec. On est quand même à Hanoï, dans un environnement qui est aux antipodes de ça, hein, puisque c'est la touffeur, c'est le tropical, oui, c'est la pluie, peut-être pas purple, mais en tout cas, la rain est bien là. Je voudrais savoir, Lynn Papin, pourquoi vous avez choisi, donc le dispositif, vous nous avez expliqué, mais il y a un moment de description que j'ai pas choisi là, où brutalement, on parle du « il ». Donc, Juliette, au jeu, pardon, comment en étais-je arrivée là? À, il aurait dû la toucher, la regarder, et elle aurait dû se voir elle-même. Et vous vous mettez à la décrire comme si elle était en surplomb, justement, de son corps. On passe de la première personne à la troisième personne.
Oui, c'est le moment où elle sort d'elle-même, où elle se rend compte que... Enfin, c'est comme si c'était une histoire attendue et obligée, le fait d'aller dormir dans le lit d'un homme. Donc, elle se voit à la troisième personne parce que... Elle se voit comme si elle aurait dû être le personnage de l'histoire qu'elle n'a pas vécue et pour laquelle elle retournera chez lui.
Alors j'ai une petite question à vous poser quand même, évidemment. Est-ce que c'était pour éviter justement tout exotisme ou pour une autre explication que vous avez choisi de vous focaliser sur des occidentaux? C'est vrai que cet homme aux yeux jaunes, la couleur jaune très très importante aussi, désigne un occidental. Et en fait, tous les personnages sont des occidentaux. Ils sont, oui, dans Hanoï. Aucun finalement n'étant un local. Hein. Ce sont des êtres de passage qui vont vivre cette ville qui est presque un personnage aussi, hein,
oui,
très très décrite. Mais pourquoi avoir choisi justement de vous focaliser sur des gens qui ne sont pas d'ici?
Je pense que déjà, en fait, quand j'étais petite, j'ai habité au Vietnam jusqu'à mes 10 ans, mais mon père est français et mes amis...
Et votre mère est vietnamienne.
Ouais. Et du coup, j'étais par mes grands-parents du Vietnam, enfin en contact avec, bien sûr, avec le Vietnam, les Vietnamiens, et je parlais vietnamien. Mais d'un autre côté, j'étais à l'école française et on habitait dans un quartier où finalement tous mes amis étaient occidentaux. Et donc je pense que d'une part, c'est pour ça que dans ma tête, ils sont occidentaux. Et d'autre part, parce que quand j'ai quitté le Vietnam, je suis arrivée en France. Et quand j'ai écrit ce livre, ça faisait longtemps que j'étais en France. Et je pense que dans ma tête, c'était des Français, quoi.
Il y a quelque chose...
Santiago Migorena.
Quoi je trouve de très beau et très particulier, c'est qu'il n'y a aucun moment où on sent qu'on évite l'autre. C'est-à-dire que c'est pas du tout... Il y a plein, on raconte beaucoup d'histoires maintenant. Quoi, je pense au film Lost in Translation.
De Sofia Coppola,
où vraiment on a l'impression qu'il y a un danger presque à mettre un personnage japonais parce qu'on s'enferme dans un hôtel entre occidentaux. Là, c'est pas du tout le cas. Le Vietnam est partout.
Oui, il transparaît, justement, c'est très poreux chez eux.
Mais avec plaisir, avec amour, et voilà quoi, le parc aquatique, c'est absolument génial, cet endroit très sale qui attire les personnages.
Oui, il y a l'attrait pour les marges, évidemment. Je voudrais vous poser une dernière question, Lynn Papin. Alors, évidemment, on rencontrera, voilà, c'est un livre qu'il faut lire, hein, vraiment, je le disais, porté vraiment par une langue, par une énergie, un côté cendre, braise encore chaude, juste après la pluie. Hein. On découvrira Laura, autre personnage, hein, donc on entre dans un triangle amoureux, on est là dans le désir mimétique parfait, en tout cas pour l'un des personnages, le personnage du garçon, cet homme aux yeux jaunes. Mais alors, je voudrais vous poser une question qui s'adresse d'ailleurs à tous les deux sur cette écriture du désir. Puisque Santiago Amigorena, quand vous devez parler de sexe, de sexualité, vous y allez, c'est-à-dire vous parlez vraiment du sexe, de la béance, et Lynn Papin, il y a un moment qui est d'ailleurs très très beau, c'est la première rencontre, elle est au lit, hein, je reprends votre expression, avec cet homme, et là, je vous lis, « Il faudrait dire alors le halo sombre et chaud, la douceur de sa peau et de son visage, son expression douce, douce, douloureuse même. Il faudrait dire moi sur lui, l'encadrant de mes jambes, m'y agrippant, et lui en moi, cette agressivité tendre et profonde, ressentie dans mon corps, ses cheveux que je caresse et relève, mes baisers sur son torse et les siens dans mon cou. Il faudrait dire son corps qui tremble et se raidit. » On est, donc c'est une figure de prétérition, vous le dites sans le dire, mais au fond, pourquoi justement cette écriture du désir, cette sexualité, le sexe même, pourquoi après Henri Miller, après Catherine Millet, après Michel Houellebecq, pourquoi finalement avoir choisi de le dire sans le dire? Après Annie Ernaux aussi, que j'aurais pu citer. Pourquoi avoir choisi de le dire sans le dire?
En fait, je ne me suis pas positionnée en fonction de...
Non, mais vous êtes...
tous ces auteurs. Enfin, juste le début de phrase, il faudrait dire, c'est juste une petite... façon de l'écarter un petit peu du corps de celui qui l'écrit, à savoir ici Juliette. C'est juste une petite phrase qui fait comme une toute petite distance.
Oui, mais pourquoi avoir choisi ça, cette distance? Alors qu'on est au moment justement où le corps va être le centre du regard, vous l'éloignez, on tourne autour, hein, les cheveux, mais on n'est pas dans le sujet même que vous embrassez, Santiago, totalement.
Oui, je crois que moi, ce que j'ai senti en lisant... ces mots, il faudrait dire, c'est l'écart que peut créer la sexualité dans le personnage. C'est-à-dire que le personnage, dans cette première fois, n'est pas là. Il manque à lui-même. Donc, il est perdu en face de quelque chose qu'il ignore. Voilà, c'est la peur de l'inconnu. Bon. Mais je pense que il faudrait dire est aussi une figure absolue de la littérature. C'est-à-dire qu'on est tout le temps, quand on le dise ou pas, on est tout le temps en train de dire « il faudrait dire ». C'est-à-dire parfois, on ne le dit pas explicitement, mais tous les mots qu'on emploie, c'est justement parce qu'il faudrait dire autre chose que ce qu'on est en train de dire. Qu'on parle du passé ou, dans ce cas-là, juste de personnage. C'est-à-dire que je pense que Lynn Papin est tellement avec son personnage qu'elle ne peut pas lui faire dire autre chose qu'il faudrait dire que...
Alors, c'est l'interprétation. Elle vous va, la lecture de Santiago Amigorena?
Oui.
Sur ce côté, cet écart, finalement, le fait qu'elle n'est pas elle-même à ce moment-là, précisément.
Oui, je pense que c'est parce que c'est aussi la première fois. Et c'est davantage que la scène... C'est la première fois, en fait, qu'elle a envie de dire. Et donc, quand elle dit « il faudrait dire », c'est « il faudrait dire tout ce qu'est cette première fois ».
Et il faudrait faire alors qu'elle ne fait pas,
oui,
précisément, aussi. Merci à tous les deux. Je voudrais terminer en évoquant celui qui nous a un petit peu accompagnés. Il était là, hein, on l'a réveillé un petit peu. C'était Marcel Proust, que vous taquinez beaucoup, Santiago Amigorena. Il écrit dans Contre Sainte-Beuve, « Ce que l'intelligence nous rend sous le nom de passé n'est pas lui. Chaque heure de notre vie, aussitôt morte, s'incarne et se cache en quelque objet matériel, et c'est ainsi qu'il y a des heures de notre vie qui ne ressusciteront jamais. » Est-ce que l'un et l'autre n'avaient pas réussi à le faire un peu mentir en suscitant ces premières fois dans vos livres, ressusciter un peu des heures de vos vies, même si ce n'est pas de la biographie ou de l'autobiographie?
Moi, je le fais mentir absolument. J'ai ressuscité toutes les premières fois, toutes les heures de ma vie.
Moi aussi.
Et vous, Lynn ? Voilà, très bien. On essaie, en tout cas, de ressusciter. Et c'est pour ça qu'on écrit. Merci, Santiago Migorena et Lynn Papin, d'avoir participé à ce temps des écrivains qui nous a permis de parler de ce qui reste éternel en nous, le désir, le rêve de recommencer toujours au début ou presque au début. Je rappelle les titres de vos livres. Lynn Papin, L'éveil, c'est chez Stock. Santiago Amigorena, Les premières fois, chez POL. Merci à tous les deux.
Merci.
C'est le moment de retrouver notre libraire de la semaine. Nous sommes avec Sophie Peugnier de la librairie Le Brouillon de Culture à Caen, 29 rue Saint-Sauveur. Bonjour Sophie Peugnier.
Bonjour Christophe.
Alors vous nous parlez aujourd'hui de Vagabond de Franck Bouys. C'est publié aux éditions La Manufacture de Livres. C'est une ressortie, je crois que ça avait été publié quelque temps auparavant dans une autre maison d'édition.
Tout à fait Christophe, c'était sorti aux éditions de l'Écorce et la Manufacture des Livres à Pierre Fournier, son éditeur, a vraiment eu envie de donner une nouvelle impulsion à ce texte qui est magnifique.
Alors ça parle de quoi Vagabond ?
Vagabond, ça nous raconte l'histoire d'un homme qui est pour qui la musique est tout. Il est dans un bar, il va jouer notamment, peu importe, c'est tous ces types qui sont devant lui complètement alcoolisés, et joue pour cette jeune femme qui est au fond du bar, qui l'envoûte pratiquement, il essaie de lui projeter la musique et de la toucher à travers ça. C'est comme si les notes s'envolaient vers elle, il y a vraiment tout un lien un peu mystérieux qui se lie entre ces deux êtres.
Donc un musicien dans un bar et une jeune femme au fond du bar, ils ne se parlent pas.
Non, ils se parlent pas, c'est la musique qui crée ce lien justement, c'est quand la musique prend le pouvoir et que la guitare essaie de toucher l'autre. La force du roman de Franck Bouys, c'est aussi montrer que la musique est une forme de langage. Et en même temps, quand ce guitariste joue, quand il touche aux cordes, on sent que c'est un peu comme ces cordes de l'existence, comme si à tout moment une corde pouvait se rompre. On est vraiment pratiquement sur les données de la mythologie aussi, avec cette fragilité de l'existence. C'est vraiment une des forces de ce texte, c'est ce rapport entre le réel et puis l'onirique.
Et l'auteur se place justement comme en surplomb, il observe la scène, de quel dispositif il use ?
Quand on lit le texte, on a vraiment l'impression d'être incarné dans le guitariste, d'être son ombre, et en même temps d'être dans une vraie fragilité, de ne pas pouvoir l'approcher, le toucher. Il y a un filtre dans ce texte, en même temps on se prend les émotions en pleine figure. Mmh. J'ai rarement lu quelque chose d'aussi profond. On sent que l'auteur a mis vraiment toutes ses tripes dans ce texte en ayant une élégance qui est vraiment rare.
Et qu'est-ce qui vous a touché alors ? C'est ce langage musical, c'est ces personnages aussi, ce joueur et celle qui l'écoute ?
Ce qui m'a touché, c'est le rapport à la vie. On sent que quand on tourne les pages, on ne sait pas combien de temps on va garder ce personnage. On sent que la vie peut s'arrêter à tout moment, que c'est vraiment sa musique, sa guitare. La guitare est comme une femme, elle aussi. C'est elle qui le maintient en vie. Il est dans les hôtels miteux. On se demande s'il va même pas dormir dans la rue complètement alcoolisé, tellement la vie est complexe pour lui. Et en même temps, c'est sur la fragilité et la force de l'existence quand on sait créer. Ce texte, c'est peut-être pour ça que ça m'a touchée, c'est un hymne à la création. La création, qu'elle soit littéraire, qu'elle soit musicale ou même artistique.
Ah bah vous donnez très très envie. Merci beaucoup Sophie Peugnier pour ce conseil de lecture. Donc Vagabond de Franck Bouys, c'est aux éditions La Manufacture de Livres. Et moi j'invite tous les auditeurs à découvrir votre belle librairie, donc Le Brouillon de Culture à Caen, 29 rue Saint-Sauveur. C'est face à une petite église.
Il y a une petite église, il y a un petit square, on est dans le cœur du centre-ville, c'est une librairie indépendante qui fête ses 30 ans cette année.
Oh.
On sera ravis de vous accueillir.
Ah bah bon anniversaire en tout cas. Merci beaucoup Sophie Peugnier.
Merci à vous Christophe.
Le temps des écrivains, c'est Avril Ventura, Anne-Laure Chanel et à la technique Pierre Monteil et Olivier Dupré. Vous pouvez nous suivre et commenter sur Facebook et sur Twitter, podcaster pendant un an et réécouter pendant 1000 jours sur franceculture.fr cette émission. Nos invités étaient aujourd'hui Lynn Papin et Santiago Amigorena.